Jean-Baptiste, il a vu descendre le Saint-Esprit sous une forme de colombe sur la personne de Jésus. Jean-Baptiste a entendu cette voix audible de Dieu le jour du baptême de Jésus et qui disait « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et Jean dira même, donc dans Jean 1, chapitre 1, verset 29, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici un disciple qui a entendu la voix de Dieu, qui a ouvert le chemin de Dieu. Comment se fait-il qu'à un moment donné, il envoya deux disciples pour demander « Seigneur, es-tu celui que nous devons attendre ?» Quand même quelque chose d'impressionnant. « Es-tu celui que nous devons attendre ?» Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a entendu, quelque chose d'impressionnant, il avait, à un moment donné, quand il a baptisé Jésus, il l'avait corporellement, il l'a ressenti, il l'avait dans les mains, et par immersion, mais extraordinaire. Et il dira à un moment donné, « Mais es-tu celui qui doit venir ?» Où est donc la passée, cette foi? Et pourtant, peut-on parler de foi? Il l'a vu visuellement, corporellement, de ses propres yeux. Jean-Baptiste a été justement en prison et il se pose cette question. Es-tu celui qui doit venir? Alors, ça me ramène également à la réponse de Jésus, quand ses deux disciples vinrent auprès de Jésus pour l'informer de la question de Jean, il dira « Allez apporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, alléluia, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et Jésus n'a pas répondu par des textes bibliques de l'Ancien Testament où on parle de lui. Il a répondu justement pour affirmer, pour affermir la foi de Jean par la puissance de Dieu. Alléluia. Jésus a répondu par la puissance de Dieu, par des paroles puissantes. Et ça me ramène aussi à un moment donné à l'apôtre Paul, quand il dira « Je ne suis pas là avec des discours persuasifs de la sagesse ». On trouve ça dans Corinthiens, au chapitre 1 de Corinthiens, chapitre 2, verset 4, où il dira à l'apôtre Paul « Mais la prédication, c'est une démonstration d'esprit et de puissance, c'est pas dans l'éloquence de la sagesse, de parole flatteuse, mais par la démonstration d'esprit et de puissance. » Et nous sommes tous, pour ceux qui sont rachetés, nous avons pris la Sainte Seine avant. Nous sommes purifiés, lavés par le sang précieux de Jésus. Et nous avons cette autorité, nous avons reçu et nous sommes revêtus. Fred parlait justement de du revêtement de gloire que nous avons. Nous avons ce revêtement également de puissance. Nous avons la puissance de Dieu en nous pour accomplir justement les plans de Dieu et d'être les témoins de sa gloire et répandre le royaume autour de nous. Aujourd'hui, tout part de travers. Aujourd'hui, il y a tout ce tumulte, avec toute cette tension internationale, nationale, on peut se demander, mais Seigneur, où es-tu? Que faut-il faire dans ces situations? On est oppressé, on est par le coût de la vie, par l'économie qui s'effondre et par plein de choses. On n'entend que des choses catastrophiques. Quelle est ma place, Seigneur, en tant que témoin dans ce monde qui va à la dérive et qui déraille? Alors, dans Romains chapitre 1, verset 16, il est dit « Nous avons point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu qui agit à salut pour quiconque croit. C'est la puissance de Dieu qui agit à salut pour quiconque croit. Et pour faire suite au témoignage du frère avant, donc quand il a ressenti, et puis j'entends souvent ces choses de plus en plus, c'est que Dieu met des fardeaux sur nos cœurs, des fardeaux de prière, des fardeaux d'intercession. C'est une manière également de répandre le royaume de Dieu. Souvent, Dieu nous met une personne dans nos pensées pour laquelle nous prions et nous voyons là, la puissance de Dieu qui agit à salut. Alléluia. Amen. Oui, nous attendons toujours à des choses extraordinaires sur le plan visuel. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire quand Dieu touche une âme, un cœur? Comment pouvons-nous considérer cette puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu dans une âme, pour qu'elle sorte justement de la perdition éternelle? Quelle puissance de Dieu il faut pour retirer une âme de la perdition éternelle? Certes, ces choses ne sont pas visibles à nos yeux, mais c'est la puissance de Dieu qui agit dans les cœurs. Alors, nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Et on pourrait également dire, je n'ai point honte de l'évangile. Car dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Jésus sauve aujourd'hui encore, Jésus touche aujourd'hui encore les cœurs, Jésus frappe aux portes des cœurs, Jésus, par sa puissance, délivre, libère les captifs de la perdition éternel, libère les captifs des addictions à l'alcool, des addictions au jeu, des addictions à la drogue. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Mais où est notre foi? Il faut raccorder à nouveau notre foi en la puissance de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, s'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a encore pas fait la paix de Dieu, qui se laisse toucher par la puissance de Dieu, et quand on parle, et quand on parle de puissance de Dieu, c'est également cette manifestation d'amour. Dieu nous aime. Dieu est venu sur cette terre en Jésus-Christ pour justement venir nous sauver. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix ce matin avec Dieu, c'est un encouragement et c'est presque une sommation vitale de remettre ton cœur entre, et ta vie entre les mains de Dieu, car tu peux sortir de ce lieu, mais tu ne sais pas. Je discutais l'autre jour, je ne sais plus si c'était en famille ou ailleurs, mais je dis souvent et je le répète, aujourd'hui je suis là devant vous. Dans 2 secondes, ou dans 3 secondes, ou dans 2 minutes, je ne peux plus être là, je peux m'écrouler, je peux m'effondrer. On entend souvent parler de d'anévrisme, d'AVC. Qui est à l'abri de ces choses? Infarctus. Qui est à l'abri? Personne. Nous sommes tous faits de la même nature, nature humaine, charnelle, physique, qui se dégrade, qui dépérit, qui a ses faiblesses, qui a ses manquements. Oh, et qu'il est bon d'être entre les mains de Dieu. Seigneur, car je ne sais pas quelle va être mon heure ou mon jour. La puissance de Dieu en nous. Eh oui, frères et sœurs, la puissance de Dieu en nous. La puissance de Dieu est en nous. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la foi pour l'exercer. Ne cherchons pas quelque chose que nous avons déjà. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Il nous faut par la foi l'exercer. C'est pour ça qu'il faut à nouveau raccorder notre foi en la puissance de Dieu. Et chaque enfant, je le répète, est revêtu, est sous l'onction et la puissance de Dieu s'il agit par la foi. Amen. Alléluia. Alors, c'est par la foi que la puissance de Dieu se manifeste. Et l'étymologie du mot puissance vient du grec dynamis. Dynamis, c'est dynamite qui a donné le terme dynamite. Et la foi, c'est le courant, l'impulsion qui va permettre justement à la puissance de Dieu de se manifester. Et en tant que ancien mineur de fond, je sais ce que c'est la dynamite. J'en ai déjà manipulé. Je comprends bien ce texte. Parce que pour qu'une dynamite puisse être efficace, je me souviens quand on devait dynamiter des parements de galeries. Donc, on devait forer des trous, y placer de la dynamite, y mettre le détonateur, et puis vous aviez ces fils qui sortaient justement de ces trous qui ont été forés, qui ont été comblés par la dynamite, et il fallait raccorder tous ces fils. Hein, donc, il y avait, on pouvait faire une dizaine, quinzaine ou une vingtaine de trous, et il fallait les raccorder pour pouvoir justement à un moment donné arriver près du détonateur, c'est-à-dire près de l'activateur qui donnait cette impulsion de courant dans les détonateurs pour que ça explose. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que toute la puissance est là. Et il faut juste une petite impulsion électrique pour que ça se produise, pour que la puissance se dégage. Et souvent, enfin, il nous est déjà arrivé d'avoir préparé toute cette dynamite pour dynamiter les parements. Et quand on est arrivé justement au stade de faire exploser, de donner cette impulsion électrique, pouf, il n'y avait rien. Que s'est-il passé? Un dysfonctionnement. Donc il fallait reprendre tous les câblages, tous les fils pour renouer, pour savoir où il y a eu cette rupture, ce dysfonctionnement. Alors la puissance était là, mais il y avait un dysfonctionnement. C'était cette petite impulsion électrique qu'il manquait. Et souvent, nous avions également des incidents de tir, on appelait ça également un incident de tir. Donc, il y avait la puissance qui se dégageait à moitié parce que justement, les dysfonctionnements perturbaient tout. Et ça me ramène justement un petit peu à notre vie. On peut avoir des dysfonctionnements spirituellement qui empêchent justement la puissance de Dieu d'agir. Et il y a des fois l'accumulation de petites choses dans notre quotidien ou des situations difficiles, des problèmes familiaux, maladies, décès, échecs, qui peuvent devenir justement des freins et qui peuvent être des dysfonctionnements en la puissance de Dieu. Oui, alors on peut venir au culte, on peut croire en la parole de Dieu, on peut prier sans problème, on peut croire en la communion, on peut vivre la communion fraternelle, on croit aux choses de Dieu, mais en la puissance de Dieu, on n'y croit plus. En la puissance de Dieu, on n'y croit plus. Il y a comme une coupure, une déception. Il y a comme un faux contact. C'est peut-être parce que les choses n'ont pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Il y a de la déception. Et les choses ne peuvent pas se produire ou arriver à terme ou à but. Alors, je voudrais vous encourager ce matin à raccorder votre foi en la puissance de Dieu. Et oui, parce que notre foi peut être secouée, notre foi peut vibrer face à des événements difficiles. Je me souviens, lors de quand ma mère était touchée par un cancer, la maladie l'a emportée. J'avais à un moment donné deux parents qui étaient hospitalisés. Mais juste pour dire que on avait même des encouragements du médecin. Dans le cabinet médical, quand on était en consultation pour ma mère, pour discuter justement de son problème, de son cancer, des protocoles qu'il lui fallait administrer, j'ai mis tout de suite les choses au clair. On était avec toute la famille, hein, mes frères et sœurs et mes parents. Donc, j'ai tout de suite dit au médecin, j'ai fait « Écoutez, docteur, nous sommes chrétiens. Et je crois en la puissance de Dieu. Et on prie justement pour que les choses se produisent dans le bon sens. » Et voilà que ce médecin, un jeune médecin, qui me citera donc
l'histoire d'Ézéchias. J'étais là étonné. Bon, c'est mais tiens donc, est-ce déjà une réponse de Dieu? Ce médecin qui me dit, oui, je comprends et je sais ce que vous voulez me dire, et il me voilà qui est en train de me citer l'histoire d'Ézéchias. Je ne m'attendais pas à cela. Qui s'attend à entendre un médecin citer la parole de Dieu? Et on dira oui, mais vous savez que pour Ézéchias, Dieu lui a donné 15 ans de vie supplémentaire. Mais il y a également cette masse de figues qu'il fallait lui mettre sur l'ulcère. Et le médecin m'a fait comprendre que oui, effectivement, qu'il y a le médical, les médicaments et la puissance de Dieu. Donc on s'est très bien compris. Et alors on a continué à prier parce que ça nous a fortifiés, ça nous a encouragés. J'ai pu prier avec ma mère, on a pu parler des choses profondes avec ma mère, elle a pu mettre sa vie en règle. Enfin, pour le peu qu'elle avait, elle était en règle depuis longtemps. Mais sauf dans ces situations-là, il y a des toutes petites choses qui reviennent. Donc, elle a pu justement mettre sa vie en règle. Mais quelle déception, frères et sœurs. Ma mère n'a pas été guérie. Ma foi a été ébranlée. Ma foi a été éprouvée. Que dire encore de mon oncle, avec lequel je n'avais plus le droit de discuter parce qu'il savait que j'étais chrétien. Mais il est tombé malade et touché également par un cancer. Et puis, bon, pour faire très court, j'ai pu lui rendre plusieurs fois visite à l'hôpital. Et puis là, pareil, c'est un homme qui s'est converti dans les douleurs. Un homme qui voulait pas me voir. Et Dieu a ouvert les portes. Et c'est un homme dans les souffrances qui a donné son cœur à Dieu. Et je suis même allé plus loin. Je suis allé avec un frère à la morgue parce qu'il est décédé, mon oncle, mon parrain. On est allé jusqu'à la mort parce que je crois toujours encore à la puissance de Dieu. Ben, on a prié pour qu'il se lève. Mais c'est pas levé, hein. Ça ne s'est pas levé. Eh oui. Alors Seigneur, où est passée ta puissance? Que se passe-t-il? Alors, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La volonté de Dieu n'est pas toujours notre volonté. Il faut que nous nous alignions à la volonté de Dieu. Et quand nous sommes alignés à la volonté de Dieu, il y a cet acte de foi pour que la puissance de Dieu se manifeste et qu'elle soit pour la gloire de Dieu. Alors oui, par la foi, je crois toujours encore, malgré mes doutes, malgré mes circonstances, malgré mes échecs, malgré mes déceptions, je crois toujours encore à la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je crois toujours encore à la puissance de Dieu pour la délivrance de l'emprise du diable. Je crois toujours par la foi en la puissance de Dieu pour briser les raisonnements qui s'élèvent contre la révélation du Fils de Dieu. Je crois par la foi aux prodiges et aux miracles, au surnaturel de Dieu. Je crois toujours et encore en la puissance de Dieu pour la guérison de toute maladie. Et oui, frères et sœurs, ne laissons pas les déceptions, les échecs perturber justement notre foi, notre croyance en la puissance de Dieu. Et alors, ça c'est la puissance de Dieu en nous. La puissance de Dieu pour la guérison. Et là, je veux juste prendre l'exemple de Bartimée. Bartimée, cet aveugle, vous connaissez l'histoire, qui était assis au bord d'un chemin. Par sa maladie, cet homme était reclus de la société. Un homme qui était plus bas que bas parce qu'il était assis au bord du chemin pendant que tout le monde était debout en train de marcher. Et chose impressionnante, quand Bartimée se trouve à un moment donné en face de Jésus, parce qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus l'a fait venir. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Ah, il y avait Bartimée et Jésus, l'un en face de l'autre. » Et Jésus lui dira, « Que veux-tu que je te fasse ? Quelle question ! Que veux-tu que je te fasse ?» Si Dieu vous posait cette question ce matin, à quoi pensez-vous ? Et si l'Esprit de Dieu vous dit ce matin, que veux-tu que je te fasse? Vous allez peut-être dire ou penser comme Bartimée, mais Seigneur, c'est logique. Je suis aveugle, il faut que je recouvre la vue. Alors vous êtes peut-être dans une situation ce matin difficile, financièrement peut-être, relationnellement, spirituellement, je ne sais, mais Dieu sait. Et si Dieu vous pose cette question, que veux-tu que je te fasse? Ouh. Je pense que ça mérite réflexion. Seigneur, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée, dans cette situation logique, dira, Seigneur, il faut que je recouvre la vue. Alors pourquoi cette question? Parce que cela paraît tellement évident, mais Jésus voulait qu'il prenne vraiment conscience de sa situation. Parce que Bartimée ne voyait toujours pas encore. La seule chose qu'il avait, c'était le son, la parole de Jésus qui venait toucher le tympan de ses oreilles et qui entrait en lui-même. Que veux-tu que je te fasse ? Bartimée, à un moment donné, il a dû se rendre compte de toute sa faiblesse. Cette question a mis en évidence l'impossibilité humaine de le guérir. Combien de temps Bartimée était là au bout du chemin? Et là, Bartimée entend la parole de Jésus et il ne voit pas. Alors il est connecté, il s'est raccroché. Il était raccordé à la puissance de Dieu, non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Ah oui, extraordinaire, n'est-ce pas? Et là, il y avait ce Bartimée, à un moment donné, qui a non seulement commencé à voir, parce qu'il était au bénéfice de la puissance de Dieu, voici qu'il recouvre la vue. Et la première chose qu'il a vue, frères et sœurs, c'est quoi? C'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Alors quand nous entendons les choses par la foi, il faut également orienter nos regards vers celui qui rétribue justement la foi. Alléluia, Jésus. Posons nos regards vers lui. Et j'aurais bien voulu être sur place. Parce que là, il devait y avoir un regard, yeux dans les yeux, mais quelque chose, une profondeur incommensurable. Bartimée non seulement a été guéri physiquement, mais la profondeur du regard de Jésus a pénétré son âme et son cœur. Il a été éclairé non seulement par le soleil physique du fait qu'il a recouvert sa vue, mais il avait le Fils de Dieu, la lumière de vie en face de lui. Son âme a été éclairée par la puissance de Dieu. Alléluia. Et Jésus dira, va, la première chose, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Impressionnant cet ordre. Jésus ne s'est pas inquiété du fait qu'il soit aveugle. Jésus dira, va, ta foi t'a sauvé. Jésus allait plus loin de ce que Bartimée pouvait voir et entendre. Jésus allait jusqu'à la profondeur de son âme pour le sauver de la perdition éternelle. En avait-il conscience ou pas, je ne sais. En tout cas, Jésus dira, va, ta foi t'a sauvé. Et le salut est primordial, est vital, c'est le plus important. La guérison miraculeuse n'est pas un passe-droit à la vie éternelle. Bartimée était toujours encore dans son corps mortel. Bartimée a peut-être recouvert la vue, mais ça ne va pas l'empêcher. Et ça ne l'a pas empêché de mourir. Par contre, c'est un homme sauvé. Alléluia. Oui, la puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. Alléluia. Alors quand nous parlons à quelqu'un, quand nous sommes justement ces témoins, quand nous sommes ces lettres ouvertes, eh ben, ne croyons pas que les choses n'aboutissent pas. Au contraire, il y a quelquefois une syllabe, un mot, une phrase qui peut donc tomber dans un cœur d'une personne à laquelle on a parlé. Et nous-mêmes, on ne s'est même pas rendu compte, mais cette personne partira peut-être à quelque chose dans son cœur. Un début qui va germer. Et la puissance de Dieu va être active à salut pour cette personne. Et vous la rencontrez peut-être des années plus tard, ou peut-être jamais, ou peut-être un jour dans les cieux. Ah oui, tu m'as une fois dit cela. Ah oui. Ce petit mot, ce petit sourire, cette phrase m'a encouragé, m'a permis justement à aller plus loin et à faire des recherches et à trouver le salut. Et le dernier point, la puissance de Dieu au travers de la persévérance. Et là, je voudrais prendre l'exemple d'Élie. Élie, cet homme qui priait intensément. Et ce qui est impressionnant, c'est que, bon, vous connaissez un peu l'histoire, c'est qu'il n'a pas pu sur ce pays pendant plus de 3 ans et demi. Et nous connaissons également des périodes de sécheresse dans nos départements. Je crois dans les Pyrénées orientales, ils sont vraiment très mal. Ou également en Espagne, je crois. Et puis pour nous, c'est aussi très limite au niveau des nappes phréatiques. Et on peut très bien comprendre, quand nous vivons ces périodes de canicule où nous passons à 35, voire 40 degrés, à certaines journées, quand il y avait ces terres arides, on peut s'imaginer Élie et son serviteur. Je ne sais même pas, parce que je pense qu'il devait être même difficile de marcher sur ces galets bouillants, chauds. Il n'y avait plus aucun courant d'eau, plus aucune source d'eau. Tout était aride, tout était sec. Et Élie a prié pour qu'il pleuve. Quel contraste! Il n'y avait rien de rationnel. Comment se fait-il qu'avec un temps pareil, on peut demander la pluie? Tout est contraire. Tout ce que je peux voir est contraire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire? C'est qu'à un moment donné, il nous est dit dans la parole de Dieu que Élie a mis sa tête entre ses genoux. Il s'est courbé face au sol. Et il envoya son serviteur juste à la 7e fois. Donc on voit Élie courbé face à, le visage face à terre. Et il n'a plus levé la tête. Je me mets à sa place. Priez pour que la pluie vienne. En ayant un ciel hyper dégagé, même pas un nuage, un ciel bleu azur, tout était aride. En lisant les textes, je me dis, Seigneur, comment pourrais-je qualifier cette attitude? Le couloir de la foi. Le couloir de la foi. Élie est rentré dans le couloir de la foi. Il est resté dans le couloir de la foi. Il ne s'est pas préoccupé de ce qui l'environnait, même s'il faisait chaud. Parce que mettez-vous à sa place, vous priez une fois, vous relevez la tête, il n'y a rien qui se passe. Quel découragement, quelle déception, vous allez peut-être recommencer 2 fois. Élie, 7 fois, il dira à son serviteur, retourne, va voir. Et lui, il est resté dans ce couloir de la foi. Il a persévéré jusqu'au bout. Et au bout de la 7e fois, le serviteur vient. Il y a un tout petit nuage, et voilà. Élie était attentif à la plus petite chose qui lui a permis justement de comprendre que la puissance de Dieu était à l'œuvre. La puissance de Dieu était à l'œuvre au travers justement de la persévérance. Quelquefois, frères et sœurs, il nous faut persévérer. Il faut que nous puissions continuer à maintenir le flambeau de la foi afin que nos prières puissent être exaucées, afin que nous puissions obtenir la délivrance. Oui. Prier une fois ne suffit peut-être plus. Il faut raccorder notre foi en la puissance de Dieu. Et chose que pourrait cette métaphore que j'ai fait aussi quand j'ai lu les textes, ça me fait rappeler que c'est la métaphore entre Élie et son serviteur, ça peut être la foi et la raison. Le serviteur, c'est la raison. Élie, c'est la foi. Élie restait dans le couloir de la foi. Le serviteur, c'est la raison. Lui, il fallait qu'il voie, qu'il regarde, qu'il comprenne et qu'il dise à Élie. Et entre l'esprit et la chair, on peut encore dire que Élie était sur le plan spirituel et le serviteur était sur le plan de la chair. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette attitude de foi a fait que ce serviteur, mais Élie est impressionnant, mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est encore le serviteur. Cette fois, Élie l'a renvoyé. Mettez-vous à sa place. Même un homme de Dieu qui vous dit, va voir là-bas. Oui, une fois, vous pouvez y aller. Vous revenez. Écoute, j'ai rien eu. Je continue à prier deux fois. Tu viens, il n'y a rien, trois fois. Je crois qu'au bout de la trois ou quatrième fois, il dit, écoute, t'as beau être un serviteur de Dieu, mais maintenant, t'as qu'à y aller tout seul. N'est-ce pas? Ça démontre par là que, dans cette métaphore, que l'esprit soumet la chair. Marchez selon l'esprit et la chair vous sera soumise. Galates 5, 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc c'est la chair qui doit confirmer ce que l'esprit veut obtenir. Extraordinaire. Donc, continuons à prier, à persévérer, à rester raccordés en la foi, en la puissance de Dieu, afin que les choses s'accomplissent. Et ça sera notre chair qui va voir des yeux. C'est-à-dire, ça va être notre raisonnement qui va au moment où le dire. Et alors là, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Je parlais de maladie avant. Alors, quand on prie pour une guérison et que la personne, elle est sous traitement. N'arrêtez surtout jamais un traitement. Même quand vous cherchez la prière, la puissance de Dieu pour la guérison, attendez que la raison vous donne le feu vert. Attendez que le médecin vous dise oui. Je prends l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux, Jésus, à un moment donné, leur a dit, allez, vous montrer au sacrificateur. Et les sacrificateurs, à l'époque, c'était un petit peu comme les médecins d'aujourd'hui. Les sacrificateurs pouvaient, à un moment donné, permettre, une fois avoir ausculté, visité, vu la personne lépreuse être guérie, c'est eux qui donnaient justement le feu vert pour la réintégrer dans la société. Alors, si vous priez pour la guérison, continuez à prendre vos traitements. Et peut-être que ces traitements vont peut-être se réduire. Et ce sera peut-être même le médecin qui va vous dire, ben écoutez, là, il faut que diminue cette dose, il faut que diminue cela, il faut que diminue ci. Continuez à prier, c'est peut-être ce petit nuage, comme Élie, ce petit nuage qui a fait que Élie était persuadé que la pluie allait tomber. Alors, attendez vraiment ce feu vert de Dieu dans l'accomplissement total d'une guérison. Et ce sera le médecin qui va vous confirmer la guérison. Le rationnel viendra déjà. Il va acquiescer. Voilà. On va pas comprendre du comment, du pourquoi. Rationnellement, on pouvait comprendre que Bartimée était aveugle. Mais la guérison miraculeuse, c'est irrationnel. Alors la foi et le rationnel marchent ensemble. Mais la foi, elle est spirituelle, le rationnel est d'ordre naturel. Mais les deux cheminent ensemble. Et à un moment donné, il y aura concordance, il y aura acceptation de la chair, il y aura acceptation du rationnel à une attitude de foi. Alors, Élie, a vu arriver justement ce petit nuage et la pluie est tombée. Laissons le surnaturel de Dieu s'inscrire dans notre quotidien, dans notre naturel. Nous avons besoin de l'impact de la foi dans nos raisonnements. Restons dans ce couloir de la foi. Faisons abstraction de tout ce qui veut venir nous perturber. Oh, ça vaut pas la peine, cette petite voix qui vient de temps en temps. Laisse tomber, tu n'arriveras pas. Tu vois bien que les choses ne bougent pas. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être levé la tête, on a peut-être regardé, les choses se sont encore aggravées. La personne malade pour laquelle je prie, ça s'est encore aggravé. Mais continuons. Et Dieu fera le reste. Et si c'est la volonté de Dieu que les choses ne se produisent pas comme elles devraient, comme nous le souhaitons, ben, c'est que ça se produira comme ça. Alors, j'en termine. De quoi veux-tu être libéré ce matin? Que veux-tu que je te fasse? La foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bartimée était aveugle. Il a entendu la parole de Dieu. Il a entendu Jésus. Il a recours vers la vue. Alléluia. Alors, c'est un encouragement à raccorder notre foi en la puissance de Dieu. Amen. Alors, je vous inviterai à vous lever. On va terminer par la prière et à réfléchir sur cette question que l'Esprit vous pose peut-être ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Oh Seigneur, tu connais mes situations, tu connais mon état de santé, tu connais, Seigneur, ce qui se passe dans ma vie. Mais Dieu veut que nous lui confessons au fond de notre cœur, puis Seigneur, c'est cela que je voudrais. Alléluia. Alléluia. Même si ça paraît logique, Seigneur, tu sais très bien, avant que je prononce, alors on peut déjouer la parole de Dieu en se disant, oui, mais Seigneur, avant que je parle, tu connais déjà ce que j'ai dans mes pensées. Oui, certes, Dieu connaît. Dieu a vu Bartimée l'aveugle sans problème. Il connaissait son souci. Mais il fallait que Bartimée donne son oui. Alors ce matin, c'est peut-être un oui qu'il faut donner. Ce matin, c'est peut-être justement une énergie nouvelle à la foi pour raccorder justement notre foi en la puissance de Dieu. Seigneur, oui, je veux te remercier de ce que tu m'aides encore à rattacher, Seigneur, ma faible foi en la puissance de Dieu. Seigneur, tu connais nos manquements et nos faiblesses. Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin. Et nous te remettons, Seigneur, tous nos soucis, tous nos problèmes. Seigneur, oui, dans mon cœur, je veux dire, Seigneur, oui, je veux que tu interviennes là, dans ce domaine. Oui, Seigneur, je veux m'accrocher par la foi en ta toute puissance. Seigneur, je veux rester comme Élie, dans ce couloir de la foi. Je veux faire abstraction de toute opposition, de tout ce qui peut venir perturber, Seigneur, ma décision de ce matin. Seigneur, merci. Saint-Esprit, je te loue, je te bénis, parce que tu agis encore dans les cœurs ce matin de mes frères et sœurs. Alléluia. Merci pour la puissance de Dieu qui agit dans les corps, qui agit dans les vies. Alléluia. Qui transforme les situations. Amen. Qui ouvre les portes. Alléluia. Merci encore de ce que tu touches également à salut pour la gloire de ton nom.
Amen.
Amen. Amen. J'inviterai Jessica à prendre un chant. Je me tiens à votre disposition pour ceux qui veulent la prière. Amen.